quel que soit le véhicule, Inayana, Mahayana, Vajana, c'est, il y a un seul et même véhicule, Ekayana, comme Sakyamuni le dit dans le Sutra du Diamant, je crois. C'est-à-dire, la seule préoccupation, c'est la réalisation de la nature de l'esprit. Ensuite, il faut déterminer une vue sur la nature de cet esprit. Et ensuite, une détermination. C'est les deux premiers chemins octuples. La vue et la détermination. Des fois, on dit l'intention. On pourrait dire la volonté. La vue. Dire, trouver un cap. S'il n'y a pas de vue, même ne serait-ce qu'une théorie de la vue, ça ne va pas aller. On ne sait pas où aller. Donc c'est une théorie au départ, et ensuite, par la force de la pratique, elle s'avère exacte. On peut la résumer la vue de la vacuité, mais on peut aussi y ajouter des convergences, vue, vacuité, du fait d'une vacuité d'entité, il y a l'expression, l'épanouissement d'une bienfaisance, d'une bienveillance, d'une compassion, si vous voulez. Mais surtout, c'est une intelligence, ce n'est pas un sentiment. C'est une sagesse. Et donc, quel que soit le véhicule, la seule chose à avoir, c'est réaliser la nature de l'esprit. Après, il y a des nuances. Réaliser la nature des phénomènes et la nature de l'esprit, ça se révélera d'elle-même. Dans les chaînes tong, les sanja, voilà. Ou sinon, un mix. Réaliser la nature des phénomènes et la nature de l'esprit. Certains disent c'est, on commence par la nature de l'esprit, puis après la nature des phénomènes. Voilà. En tout cas, réaliser la nature. L'aspect naturel, sans nos magouilles, nos saisies, la soif, l'ignorance, et ainsi de suite. Nos habitudes, les schémas de perception de soi, de l'autre, et ainsi de suite. Donc quand on parle dans les tantras, on parle de yidam racine, c'est le centre même du processus tantrique, c'est établir un lien à notre nature primordiale, enfin, pas notre nature primordiale, mais la nature primordiale de l'esprit bio, on va dire naturel. Donc des fois, dans les textes, c'est des conventions grammaticales, on dit « je deviens Shenrezi, je suis… » voilà. Mais il ne s'agit pas de se référer au « je ». C'est pas… on ne cherche pas la nature primordiale de la personne, ou la nature primordiale de son « je ». On va tourner en rond. On va aller dans le moteur. Le moteur, c'est ce qu'on appelle l'esprit. C'est une usine à concevoir. Et on n'y changera rien. Même un éveil et un éveillé conçoit. D'accord ? Mais on va dans la machine à concevoir. Et cette machine à concevoir conçoit éventuellement un jeu. C'est pas notre problème, heureusement. C'est très naturel. On peut le laisser naturellement concevoir ce « je » qui fait qu'on se sait être celui qui sait. C'est l'évidence, je traduis par « ipséité ». Mais si on ne veut pas cette évidence, on veut se construire une conclusion, être vraiment quelqu'un de définitivement « je ». Après, on va chercher à se définir « je suis quoi ?»« Qui suis-je »« Où vais-je ?» enfin, etc. On voit bien qu'il n'y a aucune réponse à ça. Donc si on commence à dire « je vais essayer de devenir Shenrezi », on est foutu. Shenrezi, c'est le nom d'une nature primordiale, contextuelle dans un cas donné, mais ça pourrait être Manjushri, Vajrasattva, Mahakala, parce que l'esprit prend tous les aspects possibles. Il est une plénitude, et pas juste une vacuité, il est une plénitude de conception. Donc, reconnaître la nature d'Avalokita en l'esprit qui est en train de fonctionner. l'esprit cesse de fonctionner. Mais au lieu de obéir à nos saisies, et puis obéir à la soif, on renonce à la soif, on essaye, hein, par le non-espoir-crainte. La soif nous donne toujours un espoir, mais un espoir qui veut se voiler la crainte. Les gens, ils n'aiment pas avoir une crainte, mais si, c'est nécessaire. C'est bon d'avoir de la crainte et c'est bon d'avoir de l'espoir. Mais il y a un mélange, un mix, espoir-crainte. C'est un facteur mental, hein, c'est un seul facteur mental. Ou on fait un mixte, c'est-à-dire on veut s'inventer de l'espoir pour ne pas avoir à s'avouer qu'on est dans la crainte. La crainte est nécessaire. Bon, c'est la base de l'éducation. On dit à un enfant, tu sais, si tu ne vas pas à l'école, ça craint. Vous voyez, c'est on alerte un danger. Ce n'est pas vouloir faire peur. C'est ça craint. Dans la prévention routière, on dit si tu bois de l'alcool, ça craint. Pour certaines personnes, il faut même leur interdire de boire de l'alcool, parce que sinon, ils n'écoutent pas que ça craint. Pour les uns, pour les autres. Donc la crainte a une vertu, l'espoir a une vertu, mais nous on fait une confusion, on fait un mixte de l'espoir qui ne veut pas se voir en train de craindre. Finalement, des faux espoirs, c'est des voiles. Et la soif a ce mécanisme d'espoir-crainte. Et ensuite, on va trouver à se convaincre par des prétextes, l'auto-illusion, l'auto-persuasion. Donc l'espoir-crainte, c'est vraiment... c'est deux syllabes en tibétain, mais deux syllabes en tibétain, c'est un concept. C'est un seul et même facteur mental. Il y a une confusion. Après, je ne dois pas avoir d'espoir, je ne dois pas avoir de crainte. On est foutu. Donc, toujours se rappeler, être Avalokita, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais avoir, être doté d'un esprit qui a pour nature ce qu'on appelle Avalokita. Notre esprit, naturellement, peut avoir un regard de douceur vis-à-vis du sort des êtres. Voilà. Il n'y a pas besoin de se changer, de devenir Avalokita. C'est reconnaître, hein, et on a tous la compassion. Celui qui dirait, je vais vous enseigner comment avoir de la compassion, attention, c'est prétentieux, quoi, c'est présomptueux. Ce serait plutôt dire, reconnaissez votre compassion, des fois elle pouf, est rapide, des fois on ne veut pas l'entendre parce que ça nous attriste. D'accord ? Mais c'est une aptitude qu'a l'esprit. Avalokita, c'est une aptitude de l'esprit, un fonctionnement naturel. Manjushri, c'est une aptitude de l'esprit. Voilà, j'insiste lourdement, simplement, voilà. Parce que même moi, je commence toujours à je suis, je deviens Avalokita. Et ensuite, non. Ce « je », c'est un concept de l'esprit. Il est nécessaire. Si un jour vous vous prenez pour quelqu'un d'autre, vous n'aurez même pas l'occasion de vous interroger si c'est bien ou pas. C'est un médecin, un psychiatre qui va vous dire « non, il y a un problème ». Donc, il y a juste voilà, l'évidence. Oui, je ne suis pas un autre hein, que moi-même. C'est ce qu'on appelle l'ipséité. Et c'est suffisant, mais la soif va nous dire... Si à partir de ce « je », tu sais te définir définitivement, tu vas pouvoir être heureux, quoi, grosso modo. C'est la tentative de la soif qui, comme je dis hier, ça m'est venu comme ça, mais c'est peut-être pas si bête que ça, la soif, c'est une compassion par défaut pour les nuls. Mais il faut mieux avoir la vraie source de la soif, c'est la compassion inhérente à l'esprit. La compassion pour soi-même, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, on pourrait dire la charité, avoir la compassion de voir toutes nos conneries, nos saisies, la perte de temps, nos illusions, et puis finalement les embrouilles avec les autres, la compassion, ben, elle est à disposition, c'est l'esprit, quoi. L'esprit est un fonctionnement qui a cette sagesse savante de l'illusion, on peut appeler compassion, je l'appelle santé, bienfaisance. L'esprit est une machine, si j'ose dire, une machine à idées, une machine à concepts. Elle n'a pas programmé à se nuire à elle-même ou à se nuire à son jeu. Parce que le jeu n'est qu'un concept pour l'esprit. C'est ça la Mahakaruna. On a l'auto-bienfaisance. Il suffit d'être à l'écoute et se voir qu'on est con, ben c'est gentil, ça fait du bien des fois. quelle connerie j'ai fait de faire ça, de repenser ça. Voilà. Donc le yidam racine, c'est le fondement d'une nature que là, dans ce contexte-là, on va appeler Avalokita, une aptitude, une nature, une intelligence de l'esprit. Et le jeu qui en sortira, on profitera, enfin. Le fait de se savoir quelqu'un en bénéficie. C'est comme avoir bien réparé sa voiture, on va en bénéficier. Et ben, on va bien réparer notre esprit, puis finalement, à la finale, ce sentiment de jeu en bénéficie. Celui qui a un sentiment de jeu, en tibétain, c'est Gang Zag, qu'on a traduit par individu, la personne. Gang, c'est juste quel que soit. Gang Zag, finalement, on le traduirait par quelqu'un. Je suis quelqu'un, parmi d'autres. On est des quelqu'un. Alors, ça ne veut pas dire quelconque, au contraire, on est quelqu'un, parmi beaucoup, un. C'est-à-dire singulier, unique. Plutôt que personne, individu, des fois, on peut s'y perdre aussi, c'est connoté. On est quelqu'un, quelqu'un. Parmi la masse des quelques, on est un. Gangzag. Quelqu'un de singulier, digne de respect. On part sur ce sentiment de dignité, on dit souvent l'orgueil tantrique. Je suis digne de respect parmi les quelques autres, mais tous sont des quelqu'un dignes de respect aussi. Ça, c'est la base du Maya. Parce qu'on a tous la nature de bodhicitta. Quand on est dans le Vajrayana Tantra, on va dire qu'on est tous à la nature de Shenrezi, d'Avalokita. Enfin, l'esprit de chacun est de cette nature d'Avalokita. On a certainement tous remarqué ce chat qui tourne autour de sa queue, parce qu'on établit « je suis Avalokita ». Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que ce n'est pas logique, ce n'est pas bon, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'on essaye de s'auto-suggérer sur un concept « je ». Et l'esprit, il n'est pas bête, il ne peut pas nous approuver dans cette démarche, si j'ose dire. Quand ça ne marche pas, c'est qu'on fait une erreur. Il ne faut pas se dire « ça ne marche pas parce que je suis nul ». Vous voyez, ça y est, on s'est défini. Et si on prend des initiations, la vue pure commence par nous-mêmes. Je suis nul, c'est une discrimination. On n'a pas le droit. Voilà. On est en danger. Parce que l'on peut se convaincre à tout jamais qu'on est nul. Alors que je n'y arrive pas, ça veut dire qu'il y a bien un problème de mise en route, de conditions et de vue. Donc les trois racines dans le jhana sont importantes. Lama racine, ici c'est le lama intérieur, et même secret, qui est synonyme de Bouddha, c'est un même terme. Ma, c'est compassion. La, insurpassable vacuité, c'est-à-dire l'inimaginable, l'intendable, l'inouï, l'indicible vacuité, ça dépasse l'entendement. Et ma, la compassion, donc c'est un synonyme de Bouddha, ou de bodhicitta, si vous voulez. C'est une coémergence, lama. Dans le livre de Asanga, Gu Lama, on définit bien lama comme étant la bouddhéité même. Ça ne désigne pas l'enseignant. Après, dans le lamaïsme tibétain, on a donné ce mot-là à ceux qui sont censés faire reconnaître le lama en la nature de l'esprit, de leur élève. Et le lama enseignant le fait aussi pour lui-même. Pratique aussi. Sauf s'il est capable d'affirmer qu'il est éveillé. Voilà. Aujourd'hui, on n'en entend pas. Même le Dalai ne s'affirme pas éveillé parce qu'il sait de quoi ça retourne, cet éveil. On peut avoir des expériences, des confirmations, voilà, etc. Donc, lama racine, c'est une vue en s'appuyant sur lama désigne une nature de l'esprit. Racine, c'est que on va faire en sorte que tout ce qui vient à notre rencontre, tout ce qui vient à notre expérience, nos sphères d'expérience, va être un lien qui va nous permettre de revenir à cette nature de bouddhéité intime. Notre intime, comme dit saint Augustin, je cherchais Dieu à l'extérieur, finalement il est en mon intimité, le plus qu'intérieur. On dit des fois secret. Tourner notre esprit vers la nature d'esprit, c'est ça ce qu'on appelle l'envoi intérieur. Je préfère dire à même soi-même, à même l'esprit, à la surface de chaque instant, à la convergence de chaque instant. Dans le moment où, en même temps qu'on voit la vague, une pensée, un concept, on voit qu'elle participe d'un océan. Au même moment où on voit l'océan, eh ben, que cet océan n'est pas monolithique, une entité, toutes ces vagues sont l'expression même de cet océan. Voilà. Je préfère même être à superficie de chaque instant, quitte à être superficiel. Intérieur, des fois, ça me donne un sentiment de sérieux. Je vais dans les profondeurs de mon âme, tout ça. Ça fait un peu lourd, dingue. Donc là, ma racine, c'est une nature de notre esprit, de notre fonctionnement cognitif. Idam racine, c'est encore, ça désigne une nature du fonctionnement de l'esprit sous un autre aspect. Mais le but, c'est toujours trouver du lien, de la reliance, de se relier, se religuer. Protecteur racine, Daka, Dakini surtout, c'est tout le système, ce que je peux appeler l'âme, c'est-à-dire les mécanismes de fluctuation des souffles et de leur trajet. Les souffles dans leur nature sont Dakini et les trajets c'est Daka. Après, des protecteurs, Chalpa, Makala, les Dekyons, les Chokyons, il y a tout un arsenal, hein, c'est tiré de tout le monde hindouiste aussi. Les Yaksha, grosso modo, c'est toujours le fonctionnement des souffles et de leur trajet. On peut s'en tenir à Dakini, Daka, Daka, Dakini. Ces trois racines peuvent être une façon de parler du Trikaya. Le Trikaya, on l'a vu à la retraite, le Trikaya, c'est aussi les aptitudes cognitives. On réalise le Dharmakaya de l'esprit, on ne réalise pas le Dharmakaya de sa personne. Même dans le Mahamudra, quand on est présent en l'avènement d'une pensée, ne la saisissant pas comme une altérité, on réalise le dharmakaya de la pensée. Voyant qu'on ne saisit pas une réalité en la pensée, et cependant elle apparaît, et ben on voit bien que le dharmakaya de la pensée est coémergent à un nirmana, un aspect qui s'émane, elle s'émane en vertu de la vacuité. Et on réalise le nirmanakaya de la pensée. Voyant que Dharmakaya et Nirmanakaya se coémergent, et qu'on peut en faire usage, c'est-à-dire on prend note de l'information transmise par la pensée, et on réalise le Sambhogakaya, c'est-à-dire la compatibilité d'une vacuité et d'un aspect, Nirmana. Si vous relisez Mahamudra qui dissipe les ténèbres, de Wangchuk, Karmapa Wangchuk Dorje, je crois. J'en ai pas lu beaucoup, hein, je l'ai lu une trentaine de fois. Après, on peut lire. Des fois, après, on ne sait plus trop, parce qu'on a l'impression qu'il parle différemment de la même chose. Trouver un bon dogme et le vérifier à l'esprit. Ça peut largement suffire. Pas besoin d'étudier à outrance. Mais étudier la même chose, l'ingurgiter, rentrer dans le crâne. Parce qu'à un moment, dans le samadhi, il y a le réflexe de l'intuition. Vipassana, qui confirme ce qu'on nous a demandé de voir. Intuition veut dire voir. Laktong, Vipassana. Pour renforcer l'idée, hein, être bouddhiste, si on veut un peu être simple, hein, c'est aspirer à reconnaître la nature de l'esprit. C'est la seule chose qui nous désillusionne, parce que c'est un mauvais usage de l'esprit qui crée l'illusion. C'est pas le monde qui nous illusionne, c'est pas les autres, c'est même pas moi-même. C'est pas la matière qui nous illusionne, c'est pas le rêve qui nous illusionne. C'est l'usage de l'esprit dans ces cinq agrégats. On utilise mal les cinq agrégats. On a des expériences, on les utilise mal. On voudrait juste agréer, alors que non, on a une faculté d'agréer et de désagréer. Après, l'entendement, la perception, on l'utilise mal, parce qu'on l'entend avec notre conception que le bonheur serait de se définir en tant que « je ». Donc on utilise mal la perception, et ainsi de suite.